La rencontre spirituelle aujourd'hui sera évidemment de question de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est décédée en 1897 à 24 ans. Il sera question de son amour, son tendre amour pour Dieu le Père. Et c'est un amour déchirant. Vous verrez que c'est assez spécial. J'ai trouvé un texte absolument admirable d'un théologien anonyme qui m'a bouleversé. Mais auparavant, je voudrais vous dire que, en un mot, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin, de son nom civil. Marie-Françoise Thérèse Martin est née à Alençon, une jolie petite ville, très jolie, très agréable, très paisible et très accueillante dans l'Orne, en France, évidemment. Elle est née là le 2 janvier 1873. Et elle arrive dans ce monde, dans notre monde, elle arrive dans une famille chrétienne. Assez exceptionnelle puisque son père, Louis Martin, et sa mère, Zélie Martin, j'ai consacré des émissions à son père et une autre à sa mère, ont tous deux désiré la vie religieuse avant leur mariage. Et puis, en plus de ça, dans sa famille, 5 filles qui vont survivre sur 9 enfants qui ont été mis au monde vont devenir toutes religieuses. 4 dans le même Carmel. Le Carmel, vous savez ce que c'est tous, mais je le dis pour les jeunes, ce sont des monastères où habitent des femmes qu'on appelle des carmélites, des religieuses, qui se consacre entièrement à la louange de Dieu et à l'amour fraternel. Et elles sont donc 4 demoiselles Martin de la même famille dans ce Carmel. C'est incroyable. Parce que dans un Carmel, il n'y a pas grand monde. 20-24 religieuses. Quand il y en a plus, on fonde un autre Carmel. Et Thérèse Martin va bénéficier d'une formation chrétienne profonde dans le climat de l'époque, qui est un peu janséniste, où on a plutôt peur de Dieu, mais elle a le désir de la vie religieuse, qui mûrit très tôt en elle. Elle a l'exemple de ses sœurs. Cependant, on parle de sa conversion, c'est étrange. Il ne s'agit pas, évidemment, c'est bien sûr, d'un retour à Dieu après une vie de péché. C'est pas ça du tout. Mais c'est elle qui va considérer ça comme un miracle qui la sort de quoi? D'une hypersensibilité puis d'une maladie des scrupules. Qu'est-ce que c'est ça, des scrupules? Peut-être les plus jeunes, vous vous demandez ce que c'est. C'est des gens qui sont toujours torturés intérieurement pour savoir s'ils ont bien fait puis s'ils ont mal fait puis qui s'excusent de tout puis qui sont torturés constamment sur la façon qu'ils ont de parler, d'agir et de... Il faut faire attention, c'est sûr, de ne pas blesser les gens. Il faut faire attention de bien faire ce qu'on a à faire. Mais pas au point d'en faire une espèce de maladie qui vient d'une hypersensibilité et d'un... c'est ce qu'on appelle des scrupules. Elle est devenue quoi? Une enfant, une femme forte, et même très forte, même si elle est morte simplement à 24 ans. Hein. Elle était vraiment héroïque. Et cette force... elle se révèle déjà dans son désir d'entrer au Carmel, alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle y a pensé avant. Mais sa décision d'entrer à 15 ans est absolument fabuleuse. Elle se rend jusqu'à Rome, jusqu'à voir le pape. Les gens autour d'elle, évidemment, s'opposent en général à cette entrée si jeune. Quoique ça se faisait. On entrait ici au Québec, il n'y a pas si longtemps, à 12 ans, dans des congrégations de frères qui soit étaient autonomes, soit dépendantes d'une congrégation de pères. J'entendais dire ces jours-ci qu'un père du Saint-Sacrement fort connu au Québec était entré à 12 ans. Alors, on s'oppose à son entrée à 15 ans et... ça la fera jamais changer d'avis, elle est têtue. Têtue dans le bon sens, sur ce point-là. Elle va réaliser son projet. Et c'est dans cette communauté où elle va vivre, 100 fois rien en apparence, C'est une vie obscure, celle des carmélites. Rien dans sa vie de carmélite qui laisse croire qu'elle a eu des phénomènes mystiques, elle a élevé dans les airs ou je ne sais quoi, et qui avait rempli justement la vie de sa patronne, Sainte Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel au XVIe siècle. Thérèse d'Avila levée, oui, de terre, en compagnie de Saint Jean de la Croix, c'est ce que nous rapportent de nombreux témoins. Elle va élaborer donc une spiritualité très simple, qui est destinée à modifier la conception des rapports que nous nous faisons, nous, êtres humains, avec Dieu. Il fallait modifier cette conception-là, ça n'avait pas de sens, parce que la conception qu'on se faisait, c'était toujours cette peur de Dieu qui existe encore. Hein. J'ai des auditeurs qui me téléphonent et qui me disent qu'ils ont tellement peur de Dieu, pour eux, Dieu est terrible, etc. C'est lui qui envoie les tremblements de terre, c'est lui qui fracasse des milliers de gens à travers la terre. Actuellement, c'est plein de tremblements de terre et d'orages et d'inondations, hein. Comme si c'était lui. Et ça prévalait beaucoup à cette époque. Et sa petite voix, quand on l'appelle, sa petite voix, V-O-I-E, son petit chemin, si vous voulez, ce sera l'enfance spirituelle. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est pas compliqué. C'est simplement l'évangile le plus pur qu'elle va retrouver à s'abandonnant à Dieu. Elle s'abandonne à Dieu comme au plus tendre des pères. Et c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, je vous l'ai dit. C'est une émission consacrée à Sainte Thérèse l'Enfant Jésus et son tendre amour pour Dieu le Père. Les épreuves de toutes sortes ne lui sont pas épargnées. Elle a beaucoup de problèmes. D'abord, des désolations spirituelles. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Qui ne ressent pas tout à coup, dans son désir de prier, on va à l'Eucharistie et tout à coup, alors qu'on est plutôt presque toujours soulevé de joie en priant ces prières si belles, souvent celles de la préface sont bouleversantes, les oraisons magnifiques, tant de textes sublimes pendant ces eucharisties, et on dirait qu'on ne ressent rien. Et tout à coup des doutes. Des doutes terribles, même sur l'existence de Dieu. Terribles. Ça nous arrive, moi ça m'arrive. Puis, évidemment, comme elle vit avec d'autres sœurs, ben, des difficultés psychologiques, des frottements. Des gens qu'on a de la difficulté à apprécier. Et surtout qui ne nous apprécient pas. Qui nous détestent. Oh, ils ont peut-être bien raison de nous détester. Mais le fait qu'il nous le montre, ça fait mal, parce que ça nous révèle nos propres défauts. Mais dans son cas, c'est pas qu'elle en avait. Puis il y a les souffrances physiques, la maladie, puis elle meurt, comme je vous ai dit, à 24 ans. Le 30 septembre 1897, et on la célèbre le 1er octobre. Autrefois, on la célébrait le 3. À la demande de sa supérieure, elle a heureusement rédigé ses mémoires. Ça nous fait comme une sorte d'autobiographie, où on sent la sincérité, un cœur pur, qui exprime les choses telles qu'elles sont. Et ce texte qui est paru tout d'abord sous le titre de « Histoire d'une âme » et qui avait été légèrement retouché par sa sœur, qui était carmélite, a été publié par la suite dans une édition authentique. Et si vous achetez, ça existe en livre de poche, manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, vous aurez le texte authentique. Et ça l'a fait connaître bien au-delà du monde catholique. Ça a été lu par des millions de personnes. Et avant de mourir, elle avait dit « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est ce qu'elle fait. Hein. Il y a des grâces innombrables qui sont venues, comme on dit, d'en haut, par son intercession près de Dieu. Et ça montre qu'elle a tenu promesse. Elle a été canonisée en 1925. Elle était, elle qui n'a rien fait, en apparence, elle était déclarée patronne des missions. Patronne des missions. Elle écrit à un moment donné une phrase qui pourra vous aider, vous qui vivez dans des maisons où vous êtes plusieurs, puis peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait de la peine. Quand nous sommes incomprises et jugées défavorablement, à quoi bon se défendre, s'expliquer? Laissons cela tomber. Ne disons rien. C'est si doux de ne rien dire, de se laisser juger n'importe comment. Nous ne voyons point dans l'Évangile que Sainte Madeleine se soit expliquée quand sa sœur l'accusait de se tenir aux pieds de Jésus sans rien faire. Elle n'a point dit « Oh, Marthe », c'était le nom de sa sœur, « si tu savais le bonheur que je goûte, si tu entendais les paroles que j'entends, et puis c'est Jésus qui m'a dit de rester là. » Non, non, elle a préféré se taire, disait Thérèse, enfant Jésus. « Oh, bienheureux silence qui donne tant de paix à l'âme. » C'est que la valeur suprême, unique de sa spiritualité, lui vient de l'importance absolue, le primat absolu de l'amour. Et l'amour est au principe, est au centre, est au début, au terme de la voie d'enfance spirituelle. L'amour constitue le sentiment primordial de l'enfant de Dieu pour son Père. Rien n'est plus évangélique que ça. C'est dit dans les textes que Dieu est amour. Et Jésus nous a montré, lui qui est Dieu, un amour total. Le christianisme, donc, est essentiellement une religion d'amour. N'oublions jamais ça. Ça semble être, plus on regarde tout ça autour de nous, la seule religion où l'amour est si important, essentiel. Écoute Israël, d'ailleurs, ça nous vient des Juifs. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est là le premier et le plus grand des commandements. En lui se résument la loi et les prophètes. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné à mettre en pratique, lui, qui s'est incarné comme juif. Tout le message de Jésus se réduit à la loi d'amour qu'a pratiqué Saint Thérèse l'enfant Jésus. Tu me demandes un moyen de parvenir à la perfection, je n'en connais qu'un. L'amour. Une auditrice fort sympathique, fort aimable, que j'appellerai de son prénom Françoise, m'a envoyé des textes absolument sublimes et m'a téléphoné hier pour me faire part de quelque chose qui pourra vous intéresser. C'est une lettre de la sœur de Thérèse l'Enfant Jésus, Pauline Martin, qui était religieuse, carmélite, et qui adresse à un Québécois, le père Eugène Prévost, 1906, où, comme Thérèse, c'est donc après la mort, 9 ans après la mort de Thérèse, et 5 ans après la fondation d'une communauté par le père Eugène Prévost, né à Saint-Jérôme, la communauté de la fraternité sacerdotale, elle dit, « Oh, comme Thérèse va devoir à l'œuvre de la fraternité sacerdotale qui, dès son aurore en 1901, veut entourer des rayons de gloire cette petite rose d'amour, Thérèse, qui deviendra comme la propriété de la fraternité sacerdotale. » Et le père Eugène Prévost était chargé de la voir à ce qu'elle soit canonisée, mais ça lui a été retiré après coup. Pour Thérèse, l'enfant Jésus, qui va devenir la plus grande sainte des temps modernes, la raison décisive de la pratique de l'abandon à Dieu, c'est que Dieu est notre Père, et que nous sommes ses enfants. C'est très important. Elle est en cela d'accord d'ailleurs avec l'Évangile, dont les enseignements nous ont été transmis puis commentés par les apôtres, les pères, les docteurs de l'Église. C'est toujours cet enseignement profond que Dieu est notre Père. D'ailleurs, on peut lire des choses magnifiques dans l'Épître aux Romains, les Galates, Saint-Jean, des choses comme « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte ». Mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions « Abba, Père, Papa ». Vous n'êtes plus esclaves, mais fils et filles. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors vous voyez comme cette doctrine colle aux Écritures et conséquemment, la grâce propre du christianisme, c'est l'esprit filial qui nous vient par Jésus, l'esprit même du Fils unique. C'est un esprit d'enfant à l'égard du Père. C'est ça qu'elle a vécu, Sainte Thérèse. Mais cet esprit crée en nous, à l'égard de Dieu, l'instinct filial. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça pousse le tout petit à se jeter dans les bras de son père ou de sa mère avec la certitude qu'il va toujours trouver auprès d'eux amour et protection. Instinct d'abandon, à base de confiance et d'amour. C'est que Thérèse a grandi auprès de parents attentifs aux valeurs chrétiennes. L'amour filial, l'amour de Dieu et du prochain. Comme l'a si bien écrit Margot Ouellet de Montréal, dans Carmel en fête, l'année du centenaire de la mort de Thérèse. Et ce climat dans cette famille, ça l'a conduit, Thérèse, à un amour tendre, simple et confiant. Puis elle dit de ses premières années, « Le bon Dieu avait placé près de moi beaucoup d'amour. » Très important, hein? Comme quoi il faut aimer nos enfants, nos petits-enfants. Et elle écrit, « Il en avait mis aussi dans mon petit cœur, le créant aimant et sensible. » Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le cœur de nos enfants, mais encore faut-il le faire grandir, hein? Et les tendresses de l'amour chez Thérèse sont déjà inscrites en elle. Et elle sent que Dieu, notre Père, l'a vu pour lui seul. D'ailleurs, le Seigneur Jésus attire ses enfants par des moyens qui lui sont propres. Et à Thérèse, Jésus donne deux grâces successives. À quelques années d'intervalle, à la grâce de fusion qu'elle reçoit à sa première communion, Jésus ajoute, toujours au nom de son Père, la grâce de Noël 1886 qui vient perfectionner son amour. Et elle écrit, « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Puis depuis lors, je fus heureuse. » Ah, que c'est beau ce texte, hein? La charité, oui, est entrée dans son cœur. Elle a senti, quoi, le besoin de s'oublier pour faire plaisir depuis lors. Et depuis lors, je fus heureuse, dit-elle. À partir de ce jour-là, elle est détachée de la terre, elle ne succombe plus à ses caprices, elle n'a plus de regard pour les besoins de son unique roi, et ne cherche plus qu'à s'abandonner à la volonté de Dieu. Rappelez-vous la conversion d'un condamné à mort pour lequel elle priait, elle avait entendu parler de ça, du fond de son cloître, hein, Pranzini. Et ça marque une autre étape importante. Elle dit, j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, le bon Dieu. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Et peu de temps auparavant, devant une image du crucifié, elle pense que ce sang versé, personne ne le recueille. Ce sang qui est l'âme de Jésus, comme je vous dis souvent dans le sens biblique. Hein. Elle veut désormais se tenir au pied de cette croix pour recueillir au prophète des pécheurs ce sang, cette âme pleine d'amour de Jésus. Et plus tard, elle dira, « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. » Son cœur brûlant, ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Et la voie de l'enfant spirituel avec Thérèse, c'est le chemin de la confiance puis du total abandon. S'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. Comment suivre Thérèse? Comment la suivre sur ce chemin de l'amour parfait? Qui implique justement une confiance si fervente, un abandon si total. Il est bon de se rappeler que Thérèse a découvert en Dieu son Père, l'amour miséricordieux, qui tient compte des faiblesses du petit enfant, et que c'est à cet amour miséricordieux qu'elle s'abandonne. Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature, écrit-elle. De quoi aurais-je peur? Thérèse nous apprend aussi que notre amour pour Dieu, notre Père, ça s'exerce. Comment? En se tenant près de lui, de plus en plus souvent, et en étant attentif à ses moindres désirs. Elle écrit, « Les plus petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. » Et c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand et nous transforme. D'ailleurs, elle a été tellement transformée, vous l'avez peut-être entendu ce matin à la radio, son dernier acte d'amour sur la terre, ce sera « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime. » Ce sont ses dernières paroles. Comment se fait-il que nous attachions tellement d'importance à Sainte Thérèse de Lisieux? C'est que cette question, sans venir d'une simple curiosité ou exprimer une ignorance, mais quand il s'agit d'entendre, d'écouter, de la comprendre, d'y répondre, à cette question, on s'aperçoit vite qu'elle est très importante. Pourquoi Thérèse, l'enfant Jésus? On peut savoir ce qu'elle a fait. On devine tout en cet enfant, je crois, une relation directe avec Dieu qui nous charme, qui nous bouleverse. Nous qui avons tant de difficultés à établir cette relation directe. Oh, il y a des auditrices, j'en suis sûr, et des auditeurs qui le font. Mais pour nous, dans l'ensemble, pour moi, c'est difficile. Et on s'aperçoit que ce sera pour toute sa vie un rapport d'amour. Ne rien lui refuser, dit-elle, que c'est beau, hein? Lui faire plaisir, l'aimer tout simplement. C'est un rapport vécu tout au long de sa vie. Chaque situation, la plus joyeuse comme la plus amère, sera pour elle matière d'amour. C'est ce qu'écrit le père Raymond Côté, un carme, qui vit ici à Montréal. Ma vocation, c'est l'amour, dit-elle. Et nous l'entendons exprimer son désir profond. Faire aimer l'amour, sur la terre comme au ciel. Oh, tout cela peut paraître vague, idéal, imaginaire, irréel, mais n'oublions pas qu'il nous est donné à nous aussi, hein. Aujourd'hui, là, à l'instant présent. Et toujours. D'en découvrir quelque chose, puis même d'en vivre. Et comme elle, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous avons des réactions d'enfants de Dieu, des réactions filiales, peut-être. Bon, pas toujours. Mais oui, mais à chacun et à chacune sa réponse. Thérèse, enfant Jésus, a su vivre, elle, filialement de lui. Elle est demeurée à travers lui, à travers tout, en lui. Elle a connu sa miséricorde infinie, puis elle l'a mise en lumière. Pour les hommes et les femmes de notre temps, de notre monde, qui cherchons tellement l'amour. Et Thérèse nous enseigne que nous n'avons que cette vie, la nôtre, on n'en a qu'une. Celle de tous les jours, cet instant présent. C'est dans l'instant présent qu'on se sanctifie, qu'on rencontre Dieu. C'est pas dans des souhaits, des regrets, etc. C'est comme ça, dans l'instant présent, qu'on peut vivre pleinement livré à lui à travers notre tâche quotidienne. En épluchant des pommes de terre, aussi bien qu'en lavant un plancher ou en allant faire des commissions. Elle a travaillé, écrit, parlé, prié, et elle n'a rien négligé. Elle a su perdre son temps pour ne rien faire, seulement pour prier avec les autres en communauté, comme les fonds lémoniales, les carmélites, mais aussi seule dans sa cellule pour se laisser façonner et assumer par Dieu son Père. Puis elle a vécu, évidemment, de grandes tentations, d'inuit de souffrance, mais elle a toujours été fidèle, centrée, fascinée par la miséricorde infinie du Père. Je vous rappelle qu'une auditrice a eu la grande bonté de m'envoyer un texte absolument sublime sur ce tendre amour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse Martin, on l'appelle de différents noms, ou Sainte Thérèse de la Sainte Face. Son amour, son tendre amour pour Dieu le Père. Et je ne peux pas faire autrement que de vous en faire part. C'est tellement beau. C'est tellement puissant. Ça commence ainsi, tout simplement. Les Anglais, les Américains, vous le savez, appellent Sainte Thérèse « the little flower », la petite fleur. Je me souviens, ça m'avait un peu déplu. En 1946, quand je suis arrivé aux États-Unis après ma sortie du monastère, une cousine protestante américaine m'avait amené au Michigan. Il y avait là de Father Cogan, je crois son nom, qui était très, très populaire aux États-Unis à l'époque, donc il y a plus de 50 ans, avait un « shrine of the little flower » et j'ai trouvé ça... Oh, mièvre au suprême degré, la petite fleur. Mais ce mot traduit bien, dit l'auteur, cet aspect sentimental sous lequel s'est divulgué le culte de Sainte Thérèse. Mais il ne faut pas rester là, dans ce sentimental. On la voit comme celle qui répand des roses, celle qui nous enseigne une voie souriante pour aller à Dieu, parce que Dieu est notre Père. Et que ce Père est plein d'une infinie tendresse et que nous devons, par conséquent, aller à lui comme de tout petits enfants. C'est très beau. Mais attention. Qu'il y ait dans Sainte Thérèse quelque chose qui justifie cette image, c'est incontestable. Mais c'est pas moins certain que la sainteté de Sainte Thérèse nous conduit ailleurs. Dans un autre univers connexe à celui-ci. Pour ne pas dire des choses inexactes d'ailleurs, pour être sûr là, d'être dans la vérité, en autant qu'on peut l'être, il faut nous en rapporter beaucoup moins à ce qu'on a dit sur elle, ou ce qu'elle-même a pu dire d'elle-même, qu'à son expérience réelle, il faut aller voir sa vie concrète. Or, on peut dire que l'expérience concrète de Thérèse comporte deux versants, dont le premier est le plus apparent, à savoir son immense amour pour son propre père, Louis Martin. Toute la vie de la petite fille a été contenue dans la tendresse de son père. Ça se comprend puisqu'elle avait perdu sa mère, Zélie Martin, très jeune. Elle avait d'ailleurs un père exemplaire qui était infiniment tendre à l'égard de cette Thérèse qu'il appelait sa petite reine. Il est donc certain que toute la première partie de la vie de Thérèse Martin baigne dans la tendresse de son père, Louis Martin. Elle n'a pas connu ici-bas, au fond, d'autre amour, on peut dire. Oh, d'accord, ses sœurs qui ont remplacé sa mère et qui entraient au cloître. Et c'est pourquoi, comme le dit si bien Hans Urs von Balthasar dans un ouvrage qu'il lui a consacré, il l'a très bien souligné, c'est pourquoi on ne trouve pas dans son œuvre d'image nuptiale. Il n'est pas question vraiment de mariage, c'est toujours la filiation, c'est l'image de son père. Alors que tant de mystiques parlent de noces avec Dieu, de leur époux, l'époux de leur âme, même chez des hommes. Et ils reprennent, ces grands mystiques, hommes et femmes, des versets du Cantique des Cantiques. Ça se sent, c'est chez Jean de la Croix. Mais c'est sous l'aspect de la paternité, donc, que Dieu se révèle à Thérèse. Comme Jésus nous l'a enseigné. Parce que dans son expérience, la suprême tendresse, c'est la tendresse de son Père. Et puisque toute révélation s'exprime, ou en quelque sorte à travers une expérience humaine, on comprend que chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son expérience de Dieu se soit traduite immédiatement par le truchement de cette tendresse admirable. Dieu est le Père, ce Père qu'elle a connu, ce Père qui a illuminé toute son enfance, ce Père qui est pour elle l'exemplaire suprême d'un amour parfait, et tout ce qu'elle a pu goûter auprès de son père, là, l'abandon, la confiance, la joie, toutes les câlineries qu'elle a reçues, toute l'admiration dont elle a été l'objet de la part de son père, tout ça, elle va le reporter sur Dieu. Ou plutôt, Dieu va s'exprimer à travers tout cela, en empruntant naturellement le langage de son expérience. Alors, c'est à partir de là que Sainte Thérèse va trouver le... si on peut dire le matériel, c'est-à-dire toute sa manière d'exprimer les rapports de l'âme avec Dieu dans ses écrits qui sont si beaux. Cette petite voix dont on a tant parlé, cette petite voix VOIE, le chemin, c'est la voix de la filiation qui baigne dans une paternité qui est un océan de tendresse. Et c'est ce qu'on a retenu d'ailleurs de sa biographie, et c'est ce qui illustre toute l'imagerie là, qui gravite autour de son visage, c'est la petite fleur, le little flower, c'est la sainte exquise, doucereuse, avec un peu de blue shadow sur les statues, puis les roses à la main, puis un air un peu compassé. C'est la sainte exquise, qui durant l'éternité passe son temps à faire tomber sur nous une pluie de roses. Mais attention, attention. Il faut bien comprendre que ce n'était d'ailleurs pas inutile qu'on comprenne bien la leçon de l'époque. Il est bien clair que, opposé au Dieu terrible et justicier, cette image de douceur, cette curieuse révélation d'une tendresse infinie, inépuisable, à laquelle on peut tout demander, de laquelle on peut tout attendre. Mais c'était formidable pour les catholiques. Les catholiques aient de Dieu cette image. Un peu terrible, mais c'est certain que la sainteté de Thérèse s'est parachevée dans une tendresse tout à l'opposé du jansénisme dans lequel elle a grandi. Elle a la certitude, quand même, que la souffrance fait partie du chemin à parcourir, et c'est ce que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Et nous en avons l'assurance absolue dans le fait précisément que ces deux dernières années ont été marquées par son vœu de victime, curieux vœu. Ce vœu de victime qu'elle a fait 2 ans avant de mourir et qui naturellement condense déjà lui-même toute une expérience. Si elle l'a fait, ce vœu, c'est qu'elle a découvert Dieu sous un autre aspect, non plus sous l'aspect du père qui câline sa petite fille, non plus sous l'aspect du père qui n'est que tendresse, mais, écoutez bien, sous l'aspect du supplicié, Jésus. Du supplicié qui est victime de sa création. C'est toujours Dieu qui est victime de sa création. Et cet aspect, c'est curieux comme façon d'entrevoir les choses, mais c'est vrai, à mon sens. Et cet aspect, puisqu'il est le dernier dans sa vie, dans sa courte vie, ça se situe nécessairement dans son évolution au stade suprême de la perfection, de la sainteté. Et cet aspect est évidemment le plus profond, et nous sentons immédiatement comme un luxe cette religion de la paternité divine sous la forme d'une tendresse qui ne cesse de nous câliner, de nous chérir. Ceux dont la vie n'est pas profondément dévastée par la souffrance, ceux qui ne connaissent pas les douleurs qui conduisent jusqu'au désespoir, ceux qui ferment trop facilement les yeux à la douleur du monde peuvent s'enchanter de cette image, mais lorsqu'on scrute le problème du mal, lorsqu'on est sensible au déchirement de l'histoire, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Timor oriental ou dans les taudis de Montréal ou dans les familles désunies et tout ça, lorsqu'on récapitule dans son cœur tout cet itinéraire d'agonie et de larmes, il devient beaucoup plus difficile de se représenter Dieu sous l'aspect d'un père qui prend ses enfants sur ses genoux et qui ne cesse de les câliner. Cela peut correspondre à une vérité. Et ça correspond certainement à une vérité, mais il y a quelque chose d'infiniment plus profond, il me semble, dans l'aspect du Dieu victime, du Dieu déchiré, du Dieu agonisant, du Dieu crucifié, du Dieu, le Dieu qui meurt du fait de sa créature. Parce que le monde serait un scandale intolérable si l'amour infini de Dieu n'assumez pas toute la souffrance et toute la douleur du monde. Et c'est là, dans ce regard sur Jésus, Jésus-Christ, que l'on comprend pourquoi il est mort. Et en quoi sa mort devient, pour ainsi dire, nécessaire. Justement, le Dieu chrétien, le Dieu incarné, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans une histoire d'homme, dans une histoire magnifique et sanglante à la fois, bien ce Dieu-là, est un Dieu qui entre personnellement dans la douleur, davantage, qui porte le premier toute la douleur du monde, qui est frappé avec nous de tous les événements qui nous dévastent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en dehors de notre histoire, il la vit, il est au cœur, on va célébrer le 2000e anniversaire de sa naissance. C'est dans notre histoire qu'il se révèle. C'est dans notre histoire que sa figure se dessine. C'est à travers notre histoire que nous entrons en contact avec lui. Et en quelque sorte, il ne cesse de devenir en nous, et nous sommes pour lui, la chance unique d'une révélation inépuisable, mais qui ne peut passer qu'à travers nous. Et il est clair que ce second aspect nous intéresse et nous émeut davantage, il me semble. Et elle a été émue, Thérèse. Ah, l'image du Dieu paternel, telle que Thérèse l'explore dans ses poésies, telle qu'elle ressort de l'histoire d'une âme, cette image est beaucoup trop enracinée dans les grâces et dans les privilèges de sa propre enfance pour ne pas nous être à quelque degré suspects. Dans ce sens que nous y voyons trop aisément la projection d'un bonheur rare, exceptionnel, qui était le sien. Mais, attention, c'est en retrouvant en elle un visage douloureux, en la voyant, notre petite Thérèse s'identifier avec le Christ crucifié, nous sentons qu'elle est entrée dans une nouvelle dimension et que là, vraiment, il se passe quelque chose de profondément authentique. Ça n'allait pas de soi, en quelque sorte, dans sa vie. C'est quelque chose qui lui a été donné, qui a mûri, à partir de son extraordinaire fidélité à la grâce, et cet aspect beaucoup plus universel, ou plutôt absolument universel, nous sommes tous des souffrants, mais cet aspect par où Thérèse nous apporte un message qui répond à toutes nos angoisses, à toute l'angoisse du monde et à toute son attente, nous confirme justement en tout ce que nous pouvons nous-mêmes expérimenter de Dieu, car le Dieu que nous connaissons, ce Dieu qui nous délivre de nous-mêmes, ce Dieu que nous entendons parfois au plus profond de notre âme quand nous cessons de faire du bruit avec nous-mêmes, ce Dieu nous apparaît dans une ineffable fragilité. Et nous sentons bien que nous sommes dans un sens plus fort que lui, et nous sentons bien que tout dépend de nous d'une certaine manière, parce que le moindre bruit ou le moindre retour sur nous-mêmes, sur nos petits problèmes, nos petites souffrances, efface immédiatement toute cette grandeur et toute cette musique que Dieu veut établir dans notre âme. Et alors, nous prenons conscience dans ces moments-là de la tragédie de Dieu, et nous nous rendons compte d'une manière absolument irrécusable que la passion de Dieu continue toujours. Ou plutôt, qu'elle coexiste à toute l'histoire, que depuis le commencement il en est ainsi, et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin, tant qu'une seule âme se refusera aux appels de l'amour. Dieu ne cesse jamais de nous appeler, il nous appelle tous, et nous devons l'aider pour que son appel rejoigne tous les cœurs, toutes les âmes, tous nos jeunes, tous nos gens âgés, tous nos malades, tous nos gens révoltés. Ce que je viens de vous transmettre peut vous étonner, mais c'est la réflexion d'un grand théologien qui n'est pas... Je ne vais pas à la hauteur de sa cheville, mais je vous transmets sa pensée, car elle me bouleverse. Et nous entrons ainsi dans une religion à la taille de l'homme et de la femme, solide. Une religion qui n'est plus une espèce de rêverie sentimentale où un enfant veut prolonger en quelque sorte son attitude infantile, non. Avec ce que je viens de vous dire, nous entrons dans la religion solide, la vraie religion catholique, la vraie religion chrétienne à mon sens. Dans la religion d'ailleurs éternelle, pourrait-on dire. Dans la religion qui fait appel à toutes les puissances de notre liberté. Dans la religion qui nous guérit de nous-mêmes. Car enfin, ce salut, cette libération dont on a tant parlé, consiste d'abord à être sauvé de soi-même. Ça va de soi, ça. Pour se sauver de soi-même. Nous sommes un poids à nous-mêmes avec nos péchés. Ça consiste aussi à être délivré de cette obsession de notre petit moi, à faire de tout soi-même un espace immense, universel, où le monde entier puisse être accueilli, et quand on fait la prière universelle, la sentir jusqu'au fond de nous à l'Eucharistie, le dimanche. Et c'est là que Thérèse nous conduit, pas dans ce qu'elle écrit, mais dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle va vivre chaque jour d'une manière plus intense, plus déchirante, dans la nuée où elle est plongée. Car il s'en faut de beaucoup que les roses pleuvent sur son âme. Elle est dans la nuit jusqu'au dernier jour. Et l'un de ses derniers mots dans la terreur de l'agonie, c'est justement, vous en souvenez, elle dit, si c'est cela l'agonie, c'est-à-dire, si l'agonie est si effroyable, que sera la mort? Oui, qu'est-ce que sera notre mort? Qu'est-ce que sera ma mort? C'est le mystère peut-être de Sainte Thérèse comparé à celui de Saint François, qu'on va célébrer dans quelques jours, que Thérèse ira vers une douleur toujours plus profonde, alors que Saint François, lui, Saint François d'Assise, qui commence par la douleur et qui sera consommé dans la douleur, mais il va achever sa vie dans la jubilation du cantique du soleil. D'ailleurs, ces deux messages de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face et de Saint François se rejoignent. Il est bien entendu que la joie est la fin et que la douleur n'est que le chemin, mais le fait de contempler à travers Thérèse la douleur divine, ça correspond pour nous à une dimension nécessaire et c'est très important. C'est pas possible, il me semble, d'entrer dans le sérieux de la vie. C'est pas possible de prendre l'humanité à sa véritable hauteur et d'être fidèle au réalisme de l'histoire qu'en croyant et en étant certain que Dieu est le premier à être frappé de toutes les douleurs, à vivre toutes les agonies et toutes les morts. Et c'est à ce moment-là que se produit ce retournement salutaire qui nous délivre de nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous pouvons oublier nos douleurs, surmonter nos souffrances et échapper à notre désespoir parce que nous sommes chargés de l'agonie de Jésus. Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Vous avez sans doute sous les yeux, parfois, cette image fantastique de la Pietà d'Avignon qui est bouleversante, ou le Saint-Suaire de Turin, et vous voyez ce Christ comme un peseur d'âme en équilibre sur les genoux de sa mère dans la Pietà d'Avignon, Marie. Et vous savez bien que cette image traduit la plus émouvante réalité, c'est bien cela notre Dieu, c'est ce cadavre vivant sur les genoux de Marie et qui sollicite, même dans sa résurrection, notre compassion. C'est par là que le scandale du monde est surmonté, car nous sommes certains que derrière la douleur du monde, derrière tous les abandons et tous les désespoirs, il y a cet amour qui les vit avec nous. Et cet amour qui n'est que l'amour, qui n'est rien d'autre que l'amour, qui est blessé avant nous de tout ce qui peut nous atteindre. Bien, c'est là le suprême message de Thérèse. Ce message dépasse de beaucoup l'image de la petite fleur, de la little flower et de la pluie de roses. Nous sommes là au cœur de l'Évangile, et je veux aujourd'hui, en évoquant Thérèse de la Sainte Face, ce second nom qu'elle a choisi, et qui, à mon sens, dépasse tellement celui de Thérèse l'Enfant Jésus, mais en priant Thérèse de la Sainte Face, nous voulons demander à Dieu que notre religion atteigne toute sa grandeur, que nous cessions de faire de lui une idole, que nous ne cherchions pas d'abord en lui des consolations puis des images qui nous arrachent à la réalité humaine, mais au contraire, nous lui demanderons d'entrer solidement dans notre tâche, d'assumer avec lui le destin de l'humanité et des gens qui nous entourent, qui souffrent, et de comprendre que ce qui donne de la tragédie humaine toutes ses dimensions, à la tragédie humaine toutes ses dimensions, c'est qu'elle est d'abord une tragédie divine. Et nous avons la certitude par Thérèse, comme par Saint François d'Assise d'ailleurs, la certitude que dans la mesure où nous compatirons à la tragédie divine qui se déroule dans le cœur des pauvres et des riches qui sont pauvres, où nous souffrirons des blessures de Dieu dans l'humanité, alors nous serons beaucoup plus aptes à guérir les blessures humaines, car finalement, pensons-y bien, ce sont les mêmes. Et si le scandale du mal est si grand, si la détresse humaine est si infinie, c'est parce qu'au fond, c'est toujours en nous la détresse d'un Dieu qui est tout amour et qui est déchiré, tant que ne règne pas cette joie qui est le but de tout, cette joie qui ne peut exister. Que si nous nous mettons à aimer pour vrai, ou pour de vrai, comme on dit au Québec, oui, cette joie, nous permettra, dans la mesure de notre fidélité, la compatir à la douleur de Jésus, qu'on voit dans le regard des pauvres et des malheureux, et des gens pleins de haine, pleins de mesquinerie, pleins de douleur, des gens fatigués. Et ça nous permettra de devenir nous-mêmes une note de lumière dans le cantique du soleil. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, dit Thérèse, je désire vous aimer, vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Et je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Ici Raymond Beaugrand-Champagne, qui vous a parlé de ce tendre amour de Thérèse, de l'Enfant Jésus. pour Dieu notre Père. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à Marc Alexandre à 374-3785 à Montréal. Si vous avez des commentaires à faire sur cette émission, positif ou négatif, peu importe, vous téléphonez à Radio Ville-Marie même. On prendra note de vos réflexions. 382-3913 à Montréal. 382-3913. On peut communiquer avec Marc Alexandre par fax, pardon. 374-6901. On peut écrire aussi à Radio Ville-Marie à 505 avenue du Mont-Cassin à Montréal, H3L1W5. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h. Demain, c'est-à-dire lundi, il sera question de Saint-François d'Assise. Je vous signale que cet après-midi, à 1h30, 2h15, je serai à la chapelle de la réparation pour parler encore un peu de Thérèse et de l'utilité de nos petites actions. C'est la vie montante. Je vous signale en plus que demain, samedi, vous pouvez vous rendre à Québec à une manifestation qui aura lieu là-bas pour défendre nos écoles, ou du moins un peu, qu'on nous laisse au moins quelques écoles catholiques. Vous pouvez vous renseigner dans votre paroisse.